Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des Écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle puisque nous passons cette heure avec celui qui est probablement l'un des derniers grands conteurs de notre temps, quelqu'un qui n'a pas peur de raconter des histoires aussi magiques que réalistes, quelqu'un pour qui la fiction n'est pas un vain mot, quand bien même il a été parfois pris lui-même dans les raies cruelles de la réalité la plus violente. Cet homme, c'est Salman Rushdie. Bonjour Salman Rushdie.
Bonjour.
Je salue aussi Michel Zlotowski qui va être votre voix pendant cette heure d'émission.
Bonjour.
Ça va Michel ?
Merveilleusement.
Heureux de vous retrouver.
Heureux d'être avec vous et en compagnie de Salman Rushdie.
Salman Rushdie disait que vous aviez été sa voix pendant... ça fait combien de temps ?
For many, many years.
I think nombreuses années, très nombreuses années.
I think Michel can do the interview without
me. Je dis que Michel pouvait faire les interviews sans ma présence.
Ça vous dirait Michel ? C'est un concept d'émission ?
Non, jamais. C'est une blague évidemment.
Salman Rushdie, les Français vous connaissent depuis bien longtemps, depuis Les Enfants de Minuit qui avaient obtenu le Booker Prize, depuis Les Versets Sataniques aussi qui vous ont valu de certains ennuis dès 1989. Je veux savoir quel regard vous portez sur la France, ce pays qui aime se mobiliser pour les écrivains, sans doute parce que dans l'histoire de France, les écrivains ont souvent été mêlés à l'actualité, à la politique aussi.
I've always had a very happy...
J'ai toujours eu une expérience extrêmement agréable de la France en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que personne privée. Je suis venu à de nombreuses reprises ici avec ma famille, en vacances. Donc c'est une relation qui dure depuis longtemps. Et en ce qui concerne mon écriture, depuis le tout début, les lecteurs français ont toujours été très intéressés. Mon premier roman, Gramus, 6 ans avant Les Enfants de Minuit, de façon modérée, qu'il n'a pas reçu un grand succès. Mais un des deux seuls pays à acheter les droits de traduction, c'était la France, l'autre c'était Israël. Donc, dès le début, les Français ont été très généreux avec mon œuvre. Les difficultés sont arrivées autour des versets sataniques. Le soutien des Français m'a été très important.
Je vais quand même rappeler le contexte de cette journée de 1989, parce que vous l'aviez raconté de façon extrêmement poétique, extrêmement bouleversante, extrêmement romanesque aussi. Donc en 1989, c'était dans vos mémoires, Joseph Anton, livre que j'adore vraiment, qu'il faut vraiment lire, qui raconte cette portion de votre vie, Salman Rushdie, mais aussi une partie de votre enfance. C'était un livre aussi sur ces années de chambre noire, comme vous l'aviez écrit, c'était votre expression. On est donc en 1989 à Londres, vous êtes chez vous, vous êtes en train de penser à votre fils qui a 9 ans. Vous avez promis à votre fils d'écrire une histoire qu'il pourrait lire. Et vous pensez à St. Judy's Comet, c'est la berceuse écrite par Paul Simon pour son fils. Souvenez, Little Sleepy Boy, Do You Know What Time It Is?
Yes.
Et puis vous apprenez au téléphone par une journaliste que vous venez d'être condamné à mort par un ayatollah à cause des versets sataniques. Et vous pensez à votre fils et vous avez cette phrase « Si je ne peux pas écrire pour endormir mon petit garçon, je suis peut-être un père célèbre, mais je ne suis pas un super papa ». C'est important cette relation que vous avez dans le fait de raconter des histoires, d'abord en fait à vos propres enfants.
Oui, à ce moment-là, c'était très important. Parce que... Après le début des problèmes, pendant un certain temps, c'était très dur d'avoir une relation très simple père-fils. Et parce que je lui ai promis d'écrire une histoire pour lui, c'est une promesse qu'il valait mieux tenir. Et j'avais l'habitude de lui raconter des histoires, pas au moment d'aller dormir, mais au moment où il prenait son bain.
Et
l'idée de cette mer d'histoire et mer a débuté parce qu'il y avait un enfant qui était dans de l'eau. Et je dois dire que le succès de ce livre a été très émouvant pour moi. Parce que c'est un livre que finalement je n'ai écrit que pour une seule personne. Et maintenant je trouve que beaucoup de gens qui étaient enfants à l'époque le lisent à leurs enfants désormais. Et c'est devenu Mon livre, peut-être le seul qui survivra. Allez savoir.
C'est Haroun, hein. Haroun est la mère des histoires en français. Alors cette fatwa l'a déclenché une période folle. Vous avez dû vous cacher, sortir avec des escortes qui suspectaient tout le monde, même votre plus proche entourage. Il y a eu des moments aussi extraordinaires. Vous êtes fait acclamer dans un stade pendant un concert de U2 par 80 000 personnes, ce qui est assez rare pour un écrivain, Salman Rushdie. Il y a eu quand même des souvenirs plus réjouissants, disons.
Well, you know, the thing with U2 was
l'histoire avec U2,
their desire to make a gesture
leur
of
désir
support,
de faire
you know?
Un geste and, de soutien en ma faveur.
And I went to Wembley Stadium.
Je suis allé au stade de Wembley.
Yeah, 85,000 people.
85,000 personnes.
It's bigger than most book readings. You know?
C'est plus grand que que certains lectorats, n'est-ce pas?
And one of the strange things that happens when you're standing in front of a crowd that
quand on est face à une foule de cette taille, c'est quand la foule vous acclame. Le son arrive par vagues. Tout n'arrive pas en même temps.
Really a very surprising
et c'était vraiment une occasion extrêmement surprenante. Un événement très, très beau. Et puis après, on a composé une chanson ensemble.
Voilà, la littérature mène à tout aussi, et les menaces aussi, Salman Rushdie. Vous avez dû vous dire, j'aime beaucoup cette expression aussi, vous avez dû lutter pour ne pas devenir fou aussi à ce moment-là, et finir par vous convaincre que oui, vous étiez prêt à mourir pour ce que vous appelez cet art ancien et magnifique qu'on appelle littérature. C'était encore une expression de Joseph Anton. Joseph Anton, c'était le nom d'emprunt que vous aviez dû prendre pendant cette époque terrible. Je vous demande juste, parce que tout le monde vous pose cette question, et peut-être qu'un jour, on ne vous la posera plus, comment ça va maintenant? Vous en avez marre d'ailleurs qu'on vous pose la question, peut-être?
No, I mean, really, it's been fine.
Écoutez, franchement, ça va depuis assez longtemps. Une des raisons pour laquelle j'ai écrit les mémoires, Joseph Anton, c'est que je voulais attendre jusqu'à ce que je sente que l'histoire était terminée, jusqu'à ce que je sache quelle était la fin de l'histoire. Je pense que voilà, 19 ans, ma vie est retournée à la normale.
Je vous demande ça parce que dans votre précédent roman, vous étiez venu d'ailleurs dans cette émission, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, ce qui en faisait 1001 si je calcule bien, 1001 nuits. Il y avait ce passage où le personnage du philosophe discutait avec sa femme sur le nom qu'il donnerait à ses enfants et il déclarait les appeler Rushdie, sans eux, hein, reviendrait à les envoyer dans l'histoire avec une marque sur le front. Et on ne pouvait pas ne pas voir une référence au tour qu'avait pris votre vie d'écrivain avec les versets sataniques.
C'était une plaisanterie personnelle quelque part. De l'humour noir.
Alors, on s'est vu la dernière fois, c'est une rencontre en public, il y a quelques semaines maintenant, où je vous ai posé la question, c'était à Nancy, au Festival du Livre sur la Place, je vous ai demandé... Est-ce que vous regrettiez d'avoir écrit les versets sataniques et vous m'avez cité Édith Piaf?
Yes, I have the Piaf position.
Oui, j'ai la position d'Édith Piaf. Je ne regrette rien.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait?
It means that I'm very proud of the book.
C'est vrai que je suis très fier de ce livre.
And also, what is nice
et
now,
ce qui est bien now that it's 30 years later, maintenant que ça fait 30 ans,
is that finally the
c'est
book,
que finalement,
the verses, you
le
know,
livre,
are reading
les versets sataniques,
simply
les gens
as a book,
le lisent
you know,
simplement comme un roman.
Finally, it has the
et finalement,
life of a book,
il a
you know?
Ce livre, la vie ordinaire d'un livre.
You know, some people love it, some people don't like
certaines
it,
personnes l'aiment, d'autres pas. D'autres sont entre les deux. Et voilà, c'est normal pour un livre. Mais ça n'avait jamais eu cette possibilité de vie normale pendant très longtemps. Donc je suis très heureux de voir que maintenant, finalement, c'est simplement un livre sur une étagère, comme n'importe quel autre livre.
C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ce livre qui n'était qu'un titre, qui n'était qu'un nom d'auteur, est devenu un texte.
Yes, and so many people now who
et tellement de gens aujourd'hui qui lisent le livre sont très surpris en le lisant, parce que ce n'est pas du tout le livre auquel ils s'attendent. Ce qu'ils ont entendu dire, c'est le scandale. Et quand ils lisent le livre, ils découvrent que ça n'a rien à voir.
Il y avait même une critique littéraire de l'époque qui, quand le livre était sorti, avait dit « mais c'est très très bien ce livre, mais... » Qu'est-ce qu'on vient de parler de l'islam dans un livre sur Londres?
Exactement.
C'était seulement il y a 30 ans, les gens avaient ce type d'aveuglement. Aujourd'hui, bien sûr, personne ne poserait une telle question.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Salman Rushdie, il a écrit les versets sataniques par provocation pour devenir célèbre »
Well, you know, I was quite famous already.
J'étais déjà célèbre.
Pour devenir très célèbre. Non, mais par provocation, disons, cette idée de provocation, qui va bien avec la littérature, parce que la littérature a le droit aussi d'être provocative. Mais est-ce que ce mot-là, vous l'acceptez, provocation
ou... I hope that books, when they're good, will
J'espère que les livres, quand ils sont bons, provoqueront une réaction du lecteur, et même provoquer un débat dans la culture, c'est une fonction parfaitement légitime de la littérature.
Mais
je n'ai jamais écrit de livre pour la célébrité, pour la gloire.
Ça
ne m'est jamais apparu que je serais riche et célèbre, parce qu'on ne choisit pas l'écriture si c'est ce qu'on veut faire. Pour moi, ça a été une sorte de miracle que dès très tôt dans ma vie, depuis Les Enfants de Minuit, c'était 7 ans avant les versets sataniques, j'ai acquis un lectorat assez important, et à mon grand plaisir, ce lectorat m'est resté. Et même la génération d'après de jeunes lecteurs suivent aussi. Et vraiment, j'en suis très très fier.
Vous avez dit l'autre jour à Nancy qu'effectivement le temps avait passé depuis cette fatwa, et vous avez eu cette phrase qui était une phrase assez glaçante. Il y a désormais d'autres raisons d'avoir peur, d'autres gens à tuer. Vous pensez à qui dans cette époque troublée que nous traversons?
Well, I just think, you know, we live in a time in which in which the world moves very quickly.
Le monde change très rapidement.
Et
les sujets qui inquiètent les gens changent sans cesse.
Et
quelque chose qui est une histoire d'il y a 30 ans, plus personne n'y pense quasiment. Et pourtant, le monde continue d'être violent.
Je n'ai
pas besoin de le dire aux auditeurs ici en France quelle est la violence qui nous afflige.
I mean, so it was kind of a, I don't know, offhand remark to say that
c'était
there are other people to kill,
but it's true that if you like the en passant, the, disons qu'il y a d'autres personnes à tuer, mais les cibles ont changé.
Pour
beaucoup d'autres écrivains, il y a encore beaucoup de problèmes.
And what I feel and have
ce que je sens,
ever
ce que j'ai senti depuis que les choses se sont améliorées pour moi, c'est que, en partie, ce que je dois faire, c'est de soutenir d'autres écrivains qui en ont besoin.
Et
c'est pourquoi, vivre aux États-Unis, j'ai été très impliqué avec des organisations d'écrivains comme le PEN International, tenter de faire pour d'autres écrivains ce que d'autres écrivains autrefois ont fait pour moi.
Vous pensez à quels écrivains qui sont menacés, justement, pour lesquels le PEN International se mobilise, par exemple? Je pense que ça va intéresser les auditeurs.
I mean, for example, you know, the Italian writer Roberto Saviano.
Roberto Salviano, l'écrivain italien,
who has become kind of a friend of mine,
qui est devenu en quelque sorte un ami, et qui est terriblement en danger, non pas pour des raisons religieuses, mais parce que il a embêté une partie de la mafia italienne.
Et puis il s'en prend aussi au gouvernement italien d'aujourd'hui.
Yes, and now, of course, that you have a very right-wing interior minister.
Un ministre intérieur très à droite, en Italie. Il y a même des menaces de lever sa protection. Saviano est un des nombreux écrivains qui ont besoin de protection. Et en Chine, il y a beaucoup d'écrivains qui doivent être soutenus. Et malheureusement, le prix Nobel de la paix, Chabot, qui est mort. Mais au moins, on a pu aider sa veuve à sortir. Donc, au moins, sa femme est en sécurité.
Ça vous étonne que, justement, les représentants de cet art ancien qu'est la littérature, comme vous le définissez, soient encore, finalement, au centre des attentions des puissants mal intentionnés? Au fond, c'est encore les écrivains. Il y a les cinéastes, évidemment, mais c'est encore la figure de l'artiste, en fait.
Yeah, it's, I mean, you know, it's very strange, isn't it, that people
c'est très étrange,
with great power,
n'est-ce pas, que des gens qui détiennent un énorme pouvoir sont tellement inquiétés par des écrivains. Nous n'avons pas d'armée. Et pourtant, c'est parce que les gouvernements autoritaires, une des choses qu'ils tentent tous de faire, c'est de contrôler les récits. Ils veulent que, voilà, établir le récit, c'est ainsi. Et si vous racontez une histoire différente, eh ben, on va vous poursuivre. Et c'est le facteur commun à travers le monde.
Contrôler le narrative, comme vous disiez, contrôler le récit, contrôler aussi le langage, parce qu'on va parler de votre nouveau livre où vous mettez en scène une figure, on développera là-dessus, qui s'appelle le Joker, dans lequel on peut reconnaître Donald Trump. Et l'une de ses caractéristiques, c'est de désigner le mot « haut » par le mot « bas », le mot « connaissance » par le mot « ignorance », et en expliquant qu'au fond, finalement, peu importe le sens des mots aujourd'hui, et l'écrivain, c'est celui qui veille encore précisément sur le sens des mots. Est-ce que c'est pas pour ça que l'écrivain gêne aujourd'hui ?
Well, I think it is true that, you know,
je pense qu'il est vrai que le monde est sur la tête. Et les choses que nous savons être des mensonges sont présentées comme des vérités. Et les choses que nous connaissons comme la vérité sont décrites comme des mensonges. Et pour un écrivain de fiction, c'est un problème inhabituel. Parce que si vous êtes dans l'imaginaire, que faites-vous quand c'est le président des États-Unis qui imagine les choses? Ma réponse à ça, c'est qu'un écrivain américain merveilleux, Ursula Le Guin, qui vient de mourir, a écrit un essai où elle a soutenu que la fiction n'était pas la même chose que le mensonge. Que la fiction, en fait, était une façon d'aller vers la vérité. Et moi, je crois à cela très fortement. À travers la lecture de romans, il est possible pour nous de retrouver un sens de la réalité. Ça ne résout pas tous les problèmes du monde, mais au moins, c'est une des choses qui doit être faite.
Alors précisément, Salman Rushdie, c'est une fiction que vous nous donnez avec la Maison Golden, qui est un roman passionnant et un peu fou dans son ambition. Ursula Le Guin écrit pour la jeunesse aussi. Elle a fait des livres.
Elle a écrit de la fiction pour les jeunes adultes. Elle a écrit beaucoup de livres de ce qu'on appelle en anglais fantasy, science-fiction, disons. Dès le début, c'était un des critiques qui a compris mon travail. Même avec ce premier roman qui n'a pas eu de succès, une des rares personnes qui l'a aimé, c'est Ursula Le Guin. Je lui en serai gré jusqu'à la fin de mes jours.
Le titre de ce premier roman, Salman Rushdie ?
It's called Grimus.
Grimus.
It's a kind of fantasy novel.
Oui, voilà,
c'est
ça.
Une nouvelle un petit peu de science-fiction aussi.
Voilà, parce que moi j'ai pensé à la fantasy aussi en lisant La Maison Golden. J'ai pensé à une sorte de grimoire magique que vous auriez écrit pour enfermer l'essence compliquée de notre époque. En fait, dans La Maison Golden, on assiste en effet, à travers les yeux fascinés d'un certain René, on est à New York aujourd'hui, enfin au moment où commence l'histoire, c'est l'intronisation d'Obama, le président, et puis on va aller jusqu'à l'élection de ce Joker qui est peut-être Donald Trump. Et donc c'est un certain René, fils d'universitaire, qui veut devenir cinéaste, qui c'est à travers ses yeux que nous découvrons l'histoire de l'arrivée à New York de quatre très curieux personnages dans une résidence très huppée de Greenwich Village. C'est un père très très riche et ses trois fils, ils viennent d'un pays d'Orient, mais ils ont pour consigne de taire le nom de ce pays. On comprend que c'est l'Inde, assez vite. Ils doivent également taire leur véritable patronyme. Pour quelle raison ? Le roman nous le dira. On sait que le père a fait des choses terribles. Et en attendant, le lecteur est prié d'accepter leur nouveau nom de famille, Golden, et surtout leur prénom, d'une originalité très antique pour le père Néron Julius, pour les fils Apuleius, Apulé, Dionysos et Petronius, Petron, c'est-à-dire, dans l'ordre d'apparition, le nom de l'empereur poète qui mit le feu à Rome, où il avait d'ailleurs baptisé un palais Domus Aurea, la maison golden, la maison dorée, comme le titre de votre livre. Le nom de l'auteur de l'Anne d'Or, Apulé, chef-d'œuvre littéraire en latin. Le nom du dieu de la vigne et de certains excès, Dionysos. Et le nom de l'auteur du Satyricon, Pétron, l'un des plus grands textes de l'Antiquité. Et pourtant, c'est un livre très contemporain, puisque vous nous parlez de notre époque, d'Obama, des élections présidentielles, un New York chaotique où tout va trop vite, tout va trop fort, où on assiste à des performances d'art contemporain, on nous parle de conception de jeux vidéo. Il est question d'ailleurs dans ce livre d'à peu près tout, de la politique américaine, mais aussi du feu follet de Louis Malle, de la culture pop, de la culture antique, de la religion Jedi, puisque j'ai découvert qu'il y avait une religion Jedi maintenant, des tueurs des attentats de l'hôtel Taj Mahal en 2008 à Bombay, d'une sibérienne qui veut épouser le riche Néron, mais qui est possédée par Baba Yaga, la sorcière des contes russes, d'une directrice de musée fascinée par les changements de genre, du télescope de Brad Pitt, du pénis de Napoléon, et donc de ce fameux Joker à la peau si blanche et aux cheveux si verts qui a inversé le sens des mots et règne déjà sur l'Amérique. Avant d'entrer dans ce livre, moi j'ai eu l'impression de pénétrer dans un véritable labyrinthe passionnant. Je disais tout à l'heure, Salman Rushdie, vous êtes peut-être le dernier conteur de notre temps. Ce livre, il s'ouvre par une phrase qui nous vient de l'Antiquité, qui était la phrase que se donnaient les conteurs de la Rome antique. « Donne-moi une pièce en cuivre et je te raconterai une histoire en or ». Sauf que chez les Romains, une histoire en or, ça voulait dire une idée folle, un conte à dormir debout.
Yes,
ce que j'essayais de faire, c'est de prendre ce monde extrêmement moderne, avec tous les détails du monde moderne que vous venez juste de décrire, et dans ce monde moderne, de raconter une histoire extrêmement ancienne, une histoire comme une tragédie grecque,
ou comme dans Shakespeare, l'idée de l'homme
avec cette faille tragique, c'est cet homme qui est détruit par sa propre faille.
So délibérément,
je leur ai fait prendre ces noms de l'Antiquité classique pour dire que c'est comme une histoire très ancienne dans un monde très moderne. Et l'histoire, c'est la chute provoquée par l'arrogance.
Nero Golden, has
Nero
in his,
Golden
which is not his real name,
qui n'est pas son véritable nom,
when he was back home in India,
had become involved in some very dark business. Avait été impliqué dans des affaires extrêmement sombres.
Book, so
on les découvre plus tard dans le temps, donc je ne vais pas le divulgâcher. Mais il fait cet effort énorme pour se réinventer. Il traverse le monde, il change son nom et ceci et cela. Mais il a une sorte d'arrogance parce qu'il est tellement riche, qu'il a tellement de pouvoir. Il peut réussir à le faire et il peut plier le monde à ce qu'il veut. Et le monde fera ce qu'il veut. Le monde lui permettra de laisser le passé derrière lui. Et sa tragédie, c'est son arrogance.
Et
vous savez, en ancien grec, ça se dit hubris.
Ça
fait véritablement descendre sur vous et tomber sur votre dos le plus terrible des divinités grecques, qui est la Némésis.
Exactement. L'hubris qui convoque la Némésis. On va en parler avec vous, Salman Rushdie, de cette maison Golden. On écoute d'abord votre premier choix musical. Vous avez choisi New York, New York par Frank Sinatra.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
New York, New York. Frank Sinatra, c'est le premier choix musical de Salman Rushdie qui publie La Maison Golden. C'est chez Actes Sud, c'est traduit de l'anglais par Gérard Medal. Pourquoi dois-je demander pourquoi ce choix musical, Salman Rushdie?
Well, because it's a New York novel, you know.
Parce que c'est un roman de New York.
You know, if you go to watch a baseball game at Yankee Stadium,
si vous allez regarder un match de baseball au Yankee Stadium, si les Yankees gagnent, s'ils gagnent, donc à la fin ils font passer cette chanson.
It's kind of the anthem of the city.
Ben, c'est l'hymne de la ville en quelque sorte.
And the version of Sinatra is
et la version
is the,
de Sinatra.
Many people have sung it, but the Sinatra
beaucoup de personnes l'ont chanté, mais la version de Sinatra, vraiment, c'est
also,
l'ultime.
It's about people coming to
et ça, fait, ça raconte l'histoire de gens qui viennent
themselves.
À New York pour you know? Devenir eux-mêmes.
Which is also a very important
part of the myth. C'est une partie très importante du mythe de New York. Les gens y viennent.
Des gens qui viennent et qui changent de nom, exactement comme les héros de la Maison Golden. Je le disais dans cette première demi-heure d'émission. La Maison Golden raconte, à travers les yeux d'un jeune homme, d'un Candide, hein, René, l'arrivée à New York de quatre personnages extravagants, un millionnaire, alors indien, même si au départ on ne doit pas dire et il a interdit à ses fils de dire d'où ils viennent. Et ces trois fils qui ont des noms absolument étranges, antiques en fait, mais très étranges, puisque c'est un roman très contemporain. Dionysos, Apulée et Pétrone, Golden. Alors ils ont des diminutifs, Dionysos s'appelle Di. C'est l'arrivée à New York de ces quatre personnages. On va comprendre pourquoi, ce qu'ils fuient, ce qu'a fait le père de famille en Inde pour avoir besoin d'arriver à New York sous un nouveau nom. C'est aussi une manière de capturer l'essence de New York depuis l'intronisation d'Obama jusqu'à l'élection de ce personnage qui s'appelle le Joker. C'est absolument passionnant. J'ai rappelé tout à l'heure tous les thèmes qu'embrasse ce livre depuis l'art contemporain jusqu'au changement de genre, l'idée des mariages aussi, avec qui se marier pour finalement accéder à la richesse quand on est une jeune sibérienne possédée par la sorcière Baba Yaga. Je disais tout à l'heure, ce livre s'ouvre par cette phrase que se donnait, c'est un peu le mantra des conteurs de la Rome antique, « Donne-moi une pièce en cuivre, les conteurs de rue, hein, et je te raconterai une histoire en or. » Sauf qu'à l'époque, et vous le dites vous-même, Salman Rushdie, ça voulait dire une histoire à dormir debout. Est-ce que ça veut dire que vous revendiquez finalement ce nom de conteur, y compris pour aider à dormir debout les gens ?
You know, I've always been
J'ai
very
toujours
interested
été intéressé par les récits, les histoires.
I think that a strong story
Je crois qu'une bonne histoire est une partie essentielle d'un roman.
There's a certain amount of modern fiction which is less interested in narrative.
Vous savez, il y a toute une grande partie de littérature moderne qui n'est pas intéressée par l'intrigue, si vous voulez. Mais pour moi, le récit, la narration est une partie essentielle. La façon dont je me l'explique, c'est que si on veut construire une grande voiture, il faut y mettre un gros moteur.
Et
l'intrigue, en fait, l'histoire, c'est le récit, c'est le gros moteur.
Et tout autour du moteur, alors la carrosserie, la sellerie, le volant, ça serait quoi alors si on compare au roman? Si l'intrigue est le moteur du roman, tout le reste de la voiture, c'est quoi dans le roman?
Well, around the storyline, you can put
anything. Autour de l'intrigue, on peut mettre ce qu'on veut, ce que l'on veut.
If you are holding the reader's attention because
si
they want to know what happens next
in the story, parce que vous voulez que le lecteur attende la suite de l'histoire, on peut les faire rire, on peut les faire pleurer, on peut les défier, on peut les informer.
You know, perhaps you could even sometimes confuse them on purpose,
parfois
mislead them,
les
you know,
mettre dans la confusion, les tromper. Tout cela devient possible.
The spine of the story is
aussi longtemps que
the book, you know?
Le fil rouge se poursuit dans le livre.
Et le style, ça serait quoi si on prend cette comparaison de la voiture, le style justement de l'écrivain, le style d'écriture?
Mon style d'écriture change de livre en livre.
That's a question of what the material requires, you know?
C'est ce que le matériau exige finalement.
When I wrote my novel, The
Quand j'ai écrit
of Florence,
mon livre L'Enchantresse de Florence,
c'est
en partie dans l'Empire mogol, en partie dans la Renaissance italienne. Et la littérature de cette période était très ornée.
On pourrait
l'appeler baroque même.
And so I thought that the
et j'ai pensé que le style d'écriture d'un roman devrait être semblable au livre que les gens dans le livre auraient aimé lire.
Et
là, délibérément, c'est très très riche, un style extrêmement riche. Mais dans d'autres livres, le style d'écriture est beaucoup plus restreint, strict.
Quand on demandait à James Salter, qui nous a quittés, un grand écrivain, ce qui faisait la qualité pour lui d'un écrivain, il répondait, il ne parlait pas de style d'ailleurs, c'était étrange, ni d'intrigue, il disait c'est l'attitude face à la vie. de l'écrivain. Est-ce que c'est une expression qui vous semble convenir pour ce qui ferait la qualité d'un écrivain?
Yeah, I love the work of James Salter, and I think
j'aime beaucoup l'œuvre de James Salter.
Unjustly little known writers
c'est un des écrivains qui est injustement pas assez connu. Dans le monde des écrivains, sa réputation est grande, mais il n'a jamais eu un très grand lectorat, mais il aurait dû.
Et
c'est vrai que chez tout bon écrivain, il y a un angle, il y a toujours un angle intéressant, une perspective sur la vie qui est intéressante. Et on peut immédiatement dire qui est l'auteur. Si on lit un livre de Don DeLillo, de Paul Auster, de Kurt Vonnegut, c'est très clair dès la première page qui vous parle.
And that is a question of what you say Salter says about your attitude
que vous
to
avez
life,
dit, de ce que Salter écrivait de l'attitude face à la vie.
I think for a writer you have to have some kind of interesting relationship with language.
Une relation intéressante au langage.
And you have to have some kind of interesting angle on
un angle intéressant de vision du monde.
Tout à l'heure, on avait l'air de blaguer avec cette comparaison du roman comme une voiture dont l'intrigue serait le moteur, mais c'est vrai que vous dites souvent que écrire de la fiction, c'est pour vous un véhicule qui vous aide à comprendre le monde dans lequel vous vivez. Qu'est-ce que vous cherchiez à comprendre du monde dans lequel vous vivez à travers ce roman qui raconte donc, je disais, l'arrivée à New York de gens qui viennent d'Inde, d'étrangers, dans une ville extraordinairement cosmopolite, mais que vous prenez entre deux élections, en fait, l'élection d'Obama, hein, on comprend que c'est lui, en fait, dans le livre, et l'élection de ce personnage aux cheveux verts et à la peau très blanche, qui a inversé le sens des mots et que vous appelez le Joker, c'est-à-dire comme le méchant dans Batman.
Mm-hmm. I guess you could say that the novel makes a journey from a moment of hope to...
Le roman est un voyage entre un moment d'espoir et un moment de désespoir, de folie. Et entre les deux, une tentative de faire le portrait d'un pays brisé, un pays divisé, dans un grand débat avec lui-même. Et ça aurait été vrai, quoi qu'il se serait passé au cours de la deuxième élection. Ce clivage en Amérique m'était intéressant et je voulais l'explorer. Et il y a aussi un type de roman américain qui est le roman de l'arrivée, quelqu'un qui vient d'ailleurs pour devenir un membre de cette société. Je pense que c'est le type de roman que je peux écrire. Je ne peux pas écrire des livres tels que ceux de Paul Auster ou de Don DeLillo. Je ne pourrais pas écrire leurs livres. Eux, ce sont des Américains. D'une autre façon, mais un des grands récits américains, c'est celui de l'arrivée. Les gens viennent, et c'est particulièrement l'histoire des grands romans new-yorkais. Autre chose qui est très attirante au sujet de New York, c'est quand on arrive, le jour de votre arrivée, par autobus ou par avion, vous posez vos valises, et à ce moment-là, vous devenez new-yorkais. Et à ce moment-là, votre histoire devient aussi une histoire de New York. Et l'histoire de New York, ce sont des couches de gens qui sont venus d'ailleurs, de partout. C'est pourquoi dans ce roman, quasiment tous les personnages, à part le narrateur, tous les personnages, ce sont des immigrés. Ils sont venus d'ailleurs. Toute personne qui vit autour de ce petit jardin où l'histoire se déroule sont de Birmanie, d'Italie, de l'Inde. Ils sont partout. Et je voulais que ce soit, en fait, un roman d'immigrés.
Ce qui est votre cas, d'ailleurs, Salman Rushdie, même doublement, puisque vous êtes arrivé d'Inde. Alors certes, c'était un reste de l'Empire britannique, mais vous êtes arrivé d'Inde en Angleterre, puis d'Angleterre à New York, où vous vivez désormais. Quel est l'avantage pour un écrivain d'être un étranger, en fait? Qu'est-ce que, dans cette attitude face à la vie dont on parlait, qui définissait pour James Salter le bon romancier,
I think for any novelist, immigrant or not,
pour tout romancier, immigré ou pas, il faut avoir la capacité d'être à la fois profondément à l'intérieur de la société que vous décrivez pour pouvoir en écrire comme quelqu'un qui connaît cette société de l'intérieur, mais aussi il faut être capable de faire ce pas de côté et de considérer la société de l'extérieur. Et je crois que si vous êtes un immigré, cela vient de façon naturelle. Parce que vous venez vous-même d'ailleurs.
Donc,
votre point de vue naturel est celui de quelqu'un d'extérieur. Et si vous y êtes là, si vous êtes là depuis longtemps, eh bien voilà, vous acquérez cette perspective de l'intérieur aussi. Donc vous avez cette double façon de voir, cette double vision.
Vous êtes très attentif à l'état du monde, Salman Rushdie. On a parlé de la figure du migrant, la figure de l'étranger. C'est un roman qui parle de l'Amérique. Cette Amérique qu'on voit aujourd'hui construire des murs pour justement empêcher les étrangers de venir. C'est le cas aussi de l'Europe dans certains pays européens où on refoule les gens qui arrivent par bateau de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que vous ne pensez pas que l'étranger, c'est drôle parce que, voilà, évidemment, je cite le titre d'un texte très célèbre, que l'étranger ne va pas devenir finalement le personnage numéro un désormais du roman au XXIe siècle?
I think that's you could make a strong argument for that.
Je crois que il y a des arguments très forts en faveur de ce que vous venez de dire.
Because in the last, let's say in the last 100 years,
au cours du siècle passé,
more people have moved across the face of the world.
Il y a eu plus de gens qui sont passés d'un côté à l'autre du monde que dans toute l'histoire de l'humanité. Avant ça, ça a à voir avec l'invention du voyage aérien.
But this phenomenon of mass,
ce phénomène de mouvement de masse, tellement de gens qui finissent dans un endroit où ils ne sont pas nés,
is really a defining feature of our age.
Un aspect qui définit notre époque.
Ça
ne signifie pas obligatoirement une migration internationale, parce que certaines des grandes migrations sont internes. Quelqu'un qui vient d'une petite ville du Midwest pour vivre à New York peut-être fait un voyage plus grand, plus important que quelqu'un qui passe d'une grande ville à une autre grande ville.
On continue avec vous, Salman Rushdie, et avec cette maison Golden, ce grand roman sur New York et l'Amérique. On écoute votre deuxième choix musical, vous avez choisi Lou Reed, Walk on the Wild Side.
Le temps des écrivains. Christophe Onodibio.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo.
Walk on the Wild Side, c'est Lou Reed, c'est le deuxième choix musical de Salman Rushdie, conversation avec lui dans ce temps des écrivains. Il publie La Maison Golden chez Actes Sud, son grand roman new-yorkais, qui est traduit de l'anglais par Gérard Medal. Walk on the Wild Side, Salman Rushdie, ça va bien à ce livre, parce que j'ai l'impression, on voit, hein, c'est l'une de vos caractéristiques, mais vous maniez la pop culture, vous adorez parsemer, insérer de la pop culture dans votre livre. Est-ce que c'est une manière finalement de walk on the wild side vous-même, comme romancier finalement, d'aller sur des références qu'on n'attendrait pas forcément d'un auteur aussi respectable que Salman Rushdie?
Writers always
les écrivains se sont toujours immergés dans la culture populaire de leur temps. Si on lit Dickens, c'est la même chose. Même si on lit Tolstoy, c'est pareil. Il parle toujours de ce bar où les gens vont boire, ou ce pamphlet satirique, etc. Le roman, en tant que genre, exige de l'auteur de savoir ce qui se passe dans la tête des gens de l'époque. Et Walk on the Wild Side, c'est parfaitement pertinent parce que ça parle beaucoup des problèmes de transgenres. Beaucoup des gens dont on parle dans cette chanson, ce sont des gens transgenres.
The lyrics are all about that.
Les paroles, ça, c'est là-dessus que ça porte.
Lou Reed himself was a figure who was on a kind of sexual frontier in his youth.
Était à la frontière sexuelle dans sa jeunesse.
So it seemed, and it also, of course, it's a famous New York song.
Et puis c'est une chanson célèbre de New York aussi.
C'est vrai que la question du transgenrisme, du non-binarisme. Qui est extrêmement d'actualité aujourd'hui et très présente dans ce livre, puisque l'un des personnages va accomplir sa migration d'ailleurs d'un genre à un autre. Est-ce que c'est pas aussi, en dehors de cette thématique d'actualité, est-ce que c'est pas aussi dans la Maison Golden une façon de parler aussi, quand on dit transgenre, de parler du roman, qui est au fond ce genre qui est tous les genres, qui est tout ce qu'il veut au fond.
I think that's fair enough. Yes, I think you could say that. And I really
Très bien.
Thought,
je pense qu'on peut dire comme ça.
My generation was not very,
ma génération n'était pas très excitée par cette histoire de confusion de genre.
I mean, we were male or female,
nous,
and
on était soit
mâle
ou femelle, c'est-à-dire homme ou femme. On était hétéro ou homo. Mais chez les jeunes, c'est quelque chose de cette compréhension beaucoup plus compliquée des relations de genre. Et je voulais tenter de le comprendre. Donc un des personnages, un des fils de Néron, a cette angoisse au sujet de son identité.
And it's, you know, it was a voyage of discovery for me, that character, because I had to learn a lot.
Un voyage de découverte pour moi. J'ai dû en apprendre beaucoup pour pouvoir le portraiturer.
Mais je vous demandais en fait si métaphoriquement, au fond, c'était pas aussi parler du changement de genre, en dehors de ce qui arrive à vos personnages, est-ce qu'il y avait pas aussi une sorte de mise en abîme pour décrire ce qui est un roman aujourd'hui, et ce que peut être un roman, c'est-à-dire quelque chose de très hybride,
yes,
quelque chose qui est tout en fait, qui n'a pas à choisir entre un side, un côté,
yeah,
et l'autre.
Voilà.
Je suis d'accord avec
I mean, you know, the famous line of Flaubert Madame Bovary, c'est moi.
Madame Bovary, c'est moi de Flaubert, ça me vient à l'esprit. Et c'est parfaitement vrai quand on écrit un livre, on ne réfléchit pas à son propre genre. Vous incarnez tout le monde dans le livre. Et une des parties que j'aime le plus dans ce livre, c'est le personnage de cette Sibérienne qui séduit Néron Golden, qui peut ou qui peut ne pas être une sorte de sorcière. Mais la créer, elle, être à l'intérieur d'elle, c'était tout aussi important, tout aussi intéressant que d'être à l'intérieur de n'importe lequel des personnages masculins. Et une des choses qui m'a le plus surpris sur la réception de ce livre, c'est que les gens, elle, c'est peut-être le plus méchant des personnages du livre. Et tout le monde l'aime. Les gens me disent, au sujet de ce personnage, m'en parlent plus que des autres personnages du livre. Ah ouais, elle est vraiment cool.
Justement, le cool, dans ce côté transgenre, il y a aussi évidemment la réflexion sur l'identité sexuelle, mais il y a aussi une réflexion sur le transgenre entre haute culture, culture traditionnelle, et pop culture, dont on parlait tout à l'heure. Je voudrais juste citer un passage où apparaît ce fameux Joker. Si l'on faisait un pas hors de ce cocon enchanté, le cocon c'est New York, et désormais tragique, on découvrait que l'Amérique avait quitté la réalité pour entrer dans l'univers de la bande dessinée. DC Comics, disait Suchitra, avait entrepris d'envahir Washington DC. Ce fut l'année du Joker à Gotham et ailleurs. Quant à Batman, le Vengeur masqué, on ne le voyait nulle part, le temps des héros était révolu. En revanche, on voyait partout son ennemi numéro un, avec sa redingote pourpre et son pantalon rayé, manifestement ravi d'être seul à occuper la scène et monopolisant les feux de la rampe avec un bonheur évident. Il avait fait ses adieux à l'escadron suicide, ses piètres rivaux, mais laissé certains de ses sous-fifres penser qu'ils allaient peut-être faire partie d'un gouvernement Joker. Le pingouin, le sphinx, double face et l'empoisonneuse, se tenaient en rang derrière le Joker dans des salles bondées, se balançant comme des choristes de doo-wop, pendant que leur chef évoquait la beauté insurpassable de la peau blanche et des lèvres rouges devant des publics en adoration qui portaient des perruques vertes ébouriffées et scandaient à l'unisson « Ha 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 !» Je disais tout à l'heure, les conteurs romains qui disaient « Donne-moi une pièce en cuivre et je vous raconterai une histoire en or. » Là, on est dans l'histoire à dormir debout, ou à cauchemarder d'ailleurs debout, Salman Rushdie. Mm-hmm. Vous revendiquez cette dimension, faire ce qu'on veut dans le roman, aller dans l'extravagance, comics, books.
Well, you know, I grew up with these things.
Et j'ai grandi avec ça.
This particular generation of comic
cette génération
book heroes,
en particulier de héros, de BD, la génération qui était présente dans les années 50, you know, quand j'étais gamin,
they're in my head all the time,
ben, ils sont restés à l'esprit tout le temps.
Batman, Superman,
Wonder Woman,
Wonder Woman, Aquaman,
you know,
much more than the people
beaucoup
who came
plus
later,
que les personnages qui sont
Spider-Man,
venus plus tard.
Not so much, you know.
Pas tellement Spider-Man.
X-Men, not so much,
les X-Men,
because
ils font partie d'une autre
But
génération.
These old classic figures,
mais
yes,
ces
I
personnages
carry them
classiques, oui, ils sont avec moi.
The world.
Et c'est une
And
façon
think,
pour moi de
you know,
comprendre le monde.
Way that we've been talking
Et de la façon dont on parlait des classiques précédemment, il y était une fois... L'écrivain pouvait assumer, penser que le lecteur avait une bonne connaissance des classiques, on pouvait faire référence aux classiques, et le lecteur savait parfaitement si on parlait d'Hercule, ou de Persée, ou de qui que ce soit, Pallas Athénée, le lecteur savait parfaitement de qui on parlait, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Mais il y a toujours... Une culture partagée qui vient des BD et des chansons pop et des programmes de télé, etc.
Mais c'est terrible ce que vous dites, Salman Rushdie. Ça veut dire que le romancier aujourd'hui, il doit renoncer aux références à ce qu'on appelait la haute culture par rapport à la pop culture, disons la culture plus classique. Il doit renoncer à ça parce que plus personne ne le comprend.
Non, je n'y renonce pas. Mais je suppose simplement que le lecteur a la même connaissance, les mêmes connaissances que moi. Mais ça veut dire que le cadre de référence est plus large.
Moi,
je pense qu'en tant que romancier, il faut s'intéresser vraiment à ce qu'il y a dans la tête des gens. Quelle est la musique qu'ils écoutent? Quels sont les programmes de télé qu'ils regardent? Quelles sont les équipes de foot qu'ils soutiennent? Il faut savoir tout ce truc-là. Sans ça, on ne peut pas rendre les gens réels, les personnages réels.
C'est pour ça que vous citez toujours, quand on vous demande quel est votre personnage... romanesque préféré, vous dites, si c'est un homme, vous dites c'est Bloom dans Ulysses de Joyce. Mais quand on vous demande quel est le personnage féminin, vous dites c'est Hermione dans Harry Potter. C'est pour ça, c'est pour être en empathie, en sympathie avec vos lecteurs. Conviction profonde qu'Hermione est vraiment un personnage.
I have a great admiration for
J'ai une grande admiration pour J.K. Rowling. Je crois que ce qu'elle a réussi à faire, c'est d'enseigner à toute une génération comment lire et comment lire des livres longs avec des intrigues extrêmement complexes. Donc elle nous a tous fait un grand plaisir. Et parmi tout cela, il y a cette fille brillante qui sait tout, qui est la meilleure.
And there, you know, there are a lot of conversations
in Harry Potter
in which people are asking each other what to do.
Dans Harry Potter, et les gens se demandent quoi faire. Et la réponse est toujours demandez-lui à elle.
Say, you know, I don't know what to do. Hermione, what shall we do?
Je ne sais pas quoi faire. Hermione, qu'est-ce qu'il faut faire?
Et
elle dit, je
ne
sais pas. Ron, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, je ne sais pas non plus. Harry, t'es sûr que tu ne sais pas? Et elle dit, non. Hermione, dis-nous quoi faire. Et finalement, elle leur dit quoi faire.
À la fin, tout le monde écoute Hermione.
Exactement.
Mais alors, justement, c'est intéressant parce que ce va-et-vient entre la pop culture et la culture classique, on l'a dans le livre d'une façon extrêmement cryptée. Il y a un double niveau et je voudrais juste qu'on en parle parce que c'est absolument passionnant. C'est que, bien sûr, tout le monde comprend à travers le personnage de René qui voit l'arrivée de ces gens riches qui ont changé leur nom. Tout le monde comprend, enfin j'espère, la référence à Gatsby, le magnifique. Vous-même d'ailleurs, vous l'avez dit, The Great Gatsby, où il arrive, il change de nom, lui aussi, et on ne sait pas vraiment d'où il vient, il est très riche. Et il est regardé par Nick Carraway. Yeah. Mais quand on regarde quel titre voulait donner Scott Fitzgerald, à Gatsby, c'était Trimalchio in West Egg. West Egg, c'est l'endroit fantasmé où est la maison de Gatsby. Mais Trimalchio, Trimalcion, en français.
Yes.
C'est un personnage.
It is the main character of the Satyricon.
C'est le personnage principal du Satyricon.
Which is of course written by Petronius.
Écrit par Petron,
voilà,
qui est le prénom d'un des fils dans mon livre. Et bon, il y a un petit jeu littéraire dedans. Mais cette histoire de changer de nom, elle existe dans la littérature américaine.
Mais avant, pour que les auditeurs comprennent bien, voilà. On part donc d'une référence à Gatsby dans le dispositif narratif, un point de vue, le point de vue d'un naïf sur des gens riches qui arrivent énigmatiques. Soit les vôtres, la famille Golden, soit de l'autre côté, c'est Gatsby, qui est Jay Gatsby. Et lui-même, Scott Fitzgerald, faisait référence à Petron. Vous avez baptisé, je le redis, hein, vous venez de nous leur expliquer, mais pour que ce soit vraiment clair, vous-même appelez l'un de vos personnages Petron, donc l'auteur du Satyricon, qui évoquait Trimalcion, Trimalcio in West Egg, étant le premier titre pour The Great Gatsby. Très beau titre, mais peut-être moins bon que The Great Gatsby. Tout ça, on se dit, mais comment il fait, Salman Rushdie, quand vous travaillez, toutes ces correspondances, ces lignes-là, c'est absolument fascinant, c'est jouissif même. Ça fait partie du plaisir de l'écriture d'un roman, Salman Rushdie.
It's a little like, you know, you're living in a chamber of echoes.
Ben, c'est comme quand on vit dans une chambre d'écho.
And I liked it. I
mean, j'aimais ça, the book obviously parce que le livre, à l'évidence,
a kind of connection to the Great
un
Gatsby.
Lien avec Gatsby le Magnifique.
Because it's about the reinvention
parce
of itself,
que c'est
which
sur
is
la réinvention de soi. Et c'est de ça que parle Gatsby le Magnifique.
Il y a
un autre livre aussi,
auquel
mon roman a été comparé, très différent du Great Gatsby, c'est Le Parrain.
And even in that, you know,
et même là,
Don Corleone,
Don Corleone,
it's not his real name.
C'est pas son vrai nom.
He takes the name from the
il
village
prend le nom
Italy,
de son village, du village d'où vient sa famille,
so
en Italie. C'est pas son vrai nom. Donc même dans Le Parrain, il y a des gens qui se réinventent pour pouvoir être américain.
Et vous-même avez dû changer de nom, on le rappelait. Prendre un nom de littérature, parce que rappelez-nous, Joseph Anton était une double référence à la littérature.
From Conrad and Chekhov.
Conrad et Chekhov.
On
m'a demandé de prendre un nom pour que je puisse signer des chèques ou louer des appartements pendant ces mauvaises années que j'ai vécues. Joseph Anton, c'est le nom que j'ai créé à partir de Joseph Conrad et Anton Tchekhov.
C'était dans Le Nègre du Narcisse, d'ailleurs.
Il y a un passage célèbre dans ce livre
where the sailor who is sick, you know, is
marin
is
qui est
asked
malade,
by his one of his colleagues on the boat,
that,
you know, why did you come on the boat if you knew that you were sick?
Lui demande pourquoi tu viens à bord en sachant que tu es malade. Et il fait cette réponse merveilleuse. Il dit, je dois vivre jusqu'à ce que je meure.
And that, if I ever have a motto, that would
et si j'ai une devise, si je dois avoir une devise, ça pourrait être ma devise.
Vous y avez pensé pendant toutes ces années à cette phrase?
Yes, I thought about it a lot.
Oui, j'y ai pensé beaucoup.
And also, you know, I mean, I was very friendly with the great Palestinian-American writer Edward Said.
Avec Edward Said, le grand écrivain palestinien-américain, qui était un collègue de Conrad, en fait, qui était spécialiste de Conrad. Et quand il est tombé malade et qu'il se battait contre son cancer, il m'a dit que c'est la phrase à laquelle il pensait lui tous les jours. Je dois vivre jusqu'à ce que je meure.
Est-ce que vous diriez je dois écrire des histoires jusqu'à ce que je meure?
You know, I don't know what else I would do.
Quoi d'autre pourrais-je faire?
Bon qu'à ça, comme disait l'autre.
Because actually, when I don't have a book to
quand
write,
je n'ai pas de livre à écrire,
I don't feel happy.
Je me sens pas heureux.
I feel kind of
unsettled, je me sens, you know, un peu déplacé.
And the moment I have a writing project,
à partir du moment où j'ai un projet d'écriture, c'est comme si
the right shape.
La forme du monde prenait sa vraie forme.
So, for instance, when Philip Roth,
quand Philip Roth,
ago,
il y a quelques années, a annoncé qu'il cesserait d'écrire, moi je ne l'ai pas cru.
Je lui
ai dit, mais comment est-ce qu'il peut faire ça?
But apparently he was
mais apparemment,
happy.
Il en était très heureux. Il a mis un petit post-it
note, you know, to his computer,
sur son ordinateur,
on which was written,
sur lequel il avait écrit, la bataille est terminée.
So, but he wrote, you know, he wrote like 33 dozen books or something, so
30 de livres. Donc lui, il aurait pu, il pouvait se reposer.
The struggle is over. Moi, j'ai l'impression que le struggle commence de plus en plus pour les écrivains. Je voudrais citer un passage que j'aime beaucoup et je voudrais qu'on termine là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a un danger, moi, qui plane sur les écrivains, qui n'est pas seulement le danger de la liberté d'expression, mais qui est le danger sur comment on va faire de la fiction, qu'est-ce que va être la vérité. Je cite un dialogue, parce qu'il y a des dialogues absolument réjouissants dans votre livre, entre deux des personnages. Aujourd'hui, 62% des républicains pensent que le président est musulman. De nos jours, si un gorille mort du zoo de Cincinnati se présente aux élections présidentielles, il recueille au moins 10% des voix. De nos jours, tant de gens en Australie ont déclaré lors du recensement être de religion Jedi que le fait est devenu officiel. De nos jours, le seul dont tu penses qu'il te ment, c'est le spécialiste qui justement connaît la question. C'est celui qu'on ne peut pas croire parce qu'il fait partie de l'élite et que l'élite est contre le peuple et cherche à l'humilier. Connaître la vérité, c'est faire partie de l'élite. Si tu affirmes avoir vu le visage de Dieu dans une pastèque, tu convaincras plus de monde que si tu as découvert le chaînon manquant, parce que si tu es un savant, tu appartiens à l'élite. La télé-réalité est un mensonge, mais elle n'a rien à voir avec l'élite, alors on achète. Les informations, ça, c'est l'élite. Je ne veux pas en faire partie de l'élite. Est-ce que j'en suis ? Il faut que tu y réfléchisses. Tu dois devenir post-factuel. C'est pareil que fictionnel. La fiction, c'est l'élite. Plus personne n'y croit. Le post-factuel est produit par le marché de masse, l'ère de l'information, les trolls, c'est ce que veulent les gens. Je déteste la truthiness, la vérité présumée. Je hais Stephen Colbert. Alors, ça vous fait rire, je lisais Salman Rushdie. Stephen Colbert, c'est le présentateur de ce Colbert Report qui fait des audiences absolument dingues. Qu'est-ce que c'est la truthiness ?
Truthiness is a word that Colbert made
up. C'est un mot fabriqué par Colbert
to describe things that sound like they're true,
qui ont l'air d'être vraies,
that they have a kind of truthy quality,
mais qui ont une qualité de vérité
but don't actually have any basis in fact.
Mais qui n'ont aucune base, aucun fondement.
And what happens increasingly
et ce qui se passe de plus en plus, c'est que les hommes politiques pensent qu'être truthy est suffisant. Il faut pas, on n'a pas besoin de dire la vérité. Il faut avoir l'air de dire la vérité.
C'est une idée
drôle, bizarre, mais c'est une idée extrêmement sombre. Et nous vivons dans ce monde dans lequel la vérité et mensonge marchent sur la tête.
Mais comment les écrivains vont faire si la fiction, c'est l'élite, et si plus personne n'y croit ? C'est votre phrase, hein ? La fiction, c'est l'élite, plus personne n'y croit.
Well, you know, that's not exactly my point of view.
C'est pas tout à fait mon point de vue.
It's for the sake of polemic.
C'est pour pouvoir polémiquer. Ma position réelle est que la fiction est une des manières de reconstruire une idée de la vérité. Parce que dans la forme du roman, l'écrivain et le lecteur passent un accord sur la nature de la vérité. Quand on lit un livre que l'on aime, on se trouve à dire « Oui, c'est comme ça que sont les choses. C'est ça qui s'est passé. » Et bizarrement, paradoxalement, cette forme qui est fictionnelle peut être une façon qui nous éloigne de cette forme truthiness, de ce monde qui marche sur la tête. Une façon de remettre le monde sur pied.
Donc on va pouvoir encore raconter des histoires en or à partir d'une pièce de cuivre ?
Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ?
Une dernière question, Salman Rushdie. Les Enfants de minuit vont devenir une série sur Netflix. Alors on dit des séries, quels sont les nouveaux romans feuilletons de notre époque ? Vous en êtes fier ? Vous avez participé à l'histoire, à l'écriture, pardon ?
Je vais impliqué
en tant que producteur exécutif. C'est très agréable pour moi. Ce livre que j'ai commencé d'écrire quand j'avais 27 ans est toujours en train de me poursuivre. Il me cherche à mon âge avancé.
Merci beaucoup, Salman Rushdie, d'avoir conversé avec nous pendant ce temps des écrivains. Merci, Michel Zlotowski, d'avoir prêté votre voix française à Salman Rushdie. On écoute, vous avez reconnu Salman Rushdie, The Godfather, c'était votre dernier choix musical. Vous en avez parlé. Qu'est-ce qui vous touche dans cette histoire ?
There are some gangsters in my book too.
Il y a des gangsters dans mon livre aussi.
And there's actually, in the novel, there's a party.
Dans le roman, il y a une soirée qui est donné par Néron Gordon, qui n'est pas très loin de la soirée qui est donnée dans The Godfather, dans Le Parrain.
Voilà, si vous
on
voulez,
entend cette musique.
Si vous voulez en savoir plus, vous lisez La Maison Golden de Salman Rushdie, c'est chez Actes Sud, traduit de l'anglais par Gérard Medal. Merci beaucoup Salman Rushdie.
Thank you.
Merci Michel Zlotowski. Le Temps des Écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis, à la technique Valérie Lavalard. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant un temps infini sur franceculture.fr, 7h avec Salman Rushdie.
Thank you.